Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français en ce samedi sur Radio SBS. Au programme aujourd'hui de la culture, bien entendu, nos rendez-vous avec la communauté. Mais on commence tout d'abord avec notre rubrique rétrospective, comme chaque samedi, c'est arrivé aujourd'hui.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Alors aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'histoire complexe et souvent polémique des îles Malouines, le conflit entre l'Argentine et le Royaume-Uni qui a pris fin le 14 juin 1982. Et c'est un exemple frappant des conséquences du nationalisme outrancier pour des îles dont la valeur est plus symbolique que stratégique. Les explications de François Vantôme.
Les îles Malouines, également connues sous le nom de Falkland Island, sont un archipel situé dans l'océan Atlantique Sud, à environ 500 km des côtes argentines, et elles couvrent une superficie d'environ 12 200 km². Leur découverte remonte au XVIe siècle, mais l'occupation humaine s'est intensifiée au XVIIIe siècle lorsque les Britanniques ont établi une colonie. Les îles ont été une source de controverse dès leur colonisation, avec des droits revendiqués par l'Argentine après son indépendance de l'Espagne en 1816. Au cours des 19e et 20e siècles, les Malouines sont restées sous contrôle britannique malgré des tentatives répétées des gouvernements argentins de revendiquer la souveraineté sur les îles. Les habitants des Malouines, pour la plupart d'origine britannique, ont, eux, développé une identité culturelle distincte qui se renforce au fil des années.
Les îles Malouines suscitent un débat fascinant sur leurs véritables valeurs et leur rôle dans la dynamique des relations internationales.
Certes, elles sont réellement intéressantes en tant que région dotée d'une magnifique biodiversité. Les îles offrent des paysages spectaculaires, abritent une faune variée et possèdent des caractéristiques géographiques qui en font un lieu d'étude et de valorisation de l'écosystème marin. Mais surtout, elles jouent un rôle crucial en tant que point de contrôle maritime, servant de plateforme pour les opérations commerciales et militaires dans cette région. De plus, leur richesse potentielle en ressources naturelles, notamment les hydrocarbures, attire l'attention des deux pays et a renforcé leur désir de souveraineté. Mais en réalité, les Malouines dépassent largement leur valeur territoriale ou stratégique. Les îles Malouines revêtent une importance symbolique tant pour l'Argentine que pour le Royaume-Uni. Pour l'Argentine, la revendication de la souveraineté sur les îles est devenue un symbole d'identité nationale et de fierté, souvent utilisé par le gouvernement comme une distraction des problèmes internes tels que les crises économiques. Quant au Royaume-Uni, les Malouines représentent un point d'ancrage de son héritage colonial et une affirmation de son engagement envers ses territoires d'outre-mer. Ainsi, bien que les îles Malouines aient des attraits intrinsèques, elles sont également devenues un prétexte dans la lutte géopolitique et le nationalisme des deux pays.
On comprend donc que les tensions entre les deux pays existent depuis longtemps, mais comment le conflit a-t-il réellement éclaté ?
Le conflit des Malouines a éclaté le 2 avril 1982, lorsque le gouvernement militaire argentin, sous le commandement du général Leopoldo Galtieri, a envahi les îles. Cette décision a été motivée par plusieurs facteurs, notamment une montée du nationalisme argentin, une diversion des problèmes économiques internes et un désir de restaurer la fierté nationale. À l'époque, l'Argentine faisait face à une grave crise économique et le régime militaire cherchait à consolider son pouvoir en canalisant l'hostilité du public contre une cible extérieure. l'invasion a été accueillie par un outrage en Grande-Bretagne, où la première ministre Margaret Thatcher a rapidement décidé d'envoyer une force expéditionnaire pour reprendre les îles. Cette réponse a également été motivée par la volonté de préserver l'influence britannique dans le monde et de montrer que le Royaume-Uni n'abandonnerait pas ses territoires d'outre-mer. Le conflit a été marqué par des combats acharnés, tant sur terre que sur mer. Les forces britanniques ont lancé une opération large qui comprenait des bombardements, des débarquements et des engagements terrestres. Malgré l'éloignement géographique et les défis logistiques, le professionnalisme des troupes britanniques et leur entraînement supérieur ont donné un point significatif à leur opération. Les Argentins, malgré leur courage remarquable, ont été affaiblis par des erreurs de commandement et un manque de ressources face à l'assaut britannique. Pendant la guerre, environ 649 militaires argentins, 255 britanniques et 3 civils des Malouines ont perdu la vie. La guerre des Malouines s'est terminée le 14 juin 1982 après environ 10 semaines de combats. La capitulation des forces argentines a permis aux troupes britanniques de reprendre le contrôle des îles. La fin de ce conflit a conduit à la chute du régime militaire en Argentine et à un retour à la démocratie, ce qui a modifié le paysage politique du pays.
Quelle est la situation actuelle des îles Malouines ?
Aujourd'hui, les îles Malouines restent un territoire britannique d'outre-mer, mais la question de la souveraineté n'est pas entièrement résolue. La population locale, qui s'identifie largement comme britannique, a exprimé à plusieurs reprises son désir de rester sous la souveraineté du Royaume-Uni, comme l'a confirmé un référendum en 2013 où plus de 99% des électeurs ont choisi de conserver leur statut actuel. Les relations entre le Royaume-Uni et l'Argentine restent ponctuées de tensions, bien que des discussions aient eu lieu pour améliorer les relations diplomatiques. Quant aux perspectives d'exploration et d'exploitation de champs pétroliers autour des îles, l'intérêt des compagnies pétrolières est grand. Mais bien que des forages aient été réalisés, l'exploitation commerciale à grande échelle n'a pas encore été pleinement développée en raison de diverses considérations économiques, environnementales et politiques.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Qui sert autour de ton cou, c'est dans l'atmosphère, c'est bien fait pour nous. Si nous manquons d'air, si nous devenons fous, jetons-nous des pierres, c'est tous ces écrous. C'est pas moi qui sert autour.
Et c'était Stéphane Echer avec Autour de ton cou ce samedi sur Radio SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants. Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Alors on a le plaisir aujourd'hui, dans l'émission en français sur Radio SBS, d'avoir Gilles Lelouch. Bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir parce que c'est vous êtes bien aimé en Australie, en tout cas.
Je suis ravi de l'apprendre. Je savais pas, mais j'ai cru constater ça lors des deux présentations que j'ai fait à Sydney et à Melbourne. Et c'est des accueils. Alors je sais pas si les gens me connaissent exactement, mais en tout cas ils sont extrêmement chaleureux. Voilà. Donc en tout cas ils donnent le change. J'ai l'impression qu'ils me connaissent.
Voilà. Ils vous connaissent un peu grâce à nous parce que vous avez plusieurs films sur notre plateforme de rattrapage en demande. Donc c'est aussi un peu grâce à SBS. Je vais pas vous faire une interview à la Raphaël Mesrahi, mais vous êtes originaire de Savigny-sur-Orge et moi aussi.
C'est pas vrai. Eh oui, je suis né là-bas. Je suis né là-bas en 1972. Je sais pas quand vous êtes né vous, mais ouais, j'ai grandi jusqu'à mes 8 ans. Je suis resté 8 ans là-bas. Ouais.
Moi aussi, en fait. Je suis pas né à Savigny-sur-Orge. Je suis né à Maison-Alfort, mais j'ai vécu de 2 ans à 20 ans à Savigny-sur-Orge. J'ai fait toute ma scolarité avenue Pasteur et avenue Robert-Letrot.
Moi, j'étais dans un truc qui s'appelait Claire Village.
Oui, moi j'étais au collège des Gâtines.
Eh ben moi aussi. Enfin pas, j'étais pas au collège, j'étais à l'école maternelle et je suis parti pour pendant mon CM1 je crois.
Et ben voilà, on est à la même origine.
C'est incroyable. Hein. En Australie, c'est rare.
Allez, on va parler cinéma. Parce qu'on est là pour ça. Vous êtes là pour deux films qui ont été marquants pour vous ces dernières années. On va d'abord commencer par le gros succès en France, Sink or Swim, Le Grand Bain. Un film que moi j'ai eu la chance de voir en France d'ailleurs, très sympa, mais avec un sujet plus profond que juste de la comédie en fait.
Oui, mais en fait, c'était pas mon intention quand j'ai écrit le film, c'était pas de finalement m'enfermer dans un genre qu'il soit comédie, drame ou je ne sais quoi. J'avais envie de faire le film que j'avais envie de voir en fait. Et pour ça, je me suis appuyé sur une constatation que je voyais, que j'observais dans mon pays. Et je trouve que voilà, la France depuis quelques années dans une espèce de pas de dépression parce que le mot est trop fort, mais dans une espèce de mélancolie comme ça où il y a une sorte de perte de repères, perte d'espoir, perte de foi, une sorte d'illusion un peu perdue et j'avais envie de parler de ça et de la capacité qu'on a de se remotiver à travers le collectif. Moi, je crois vraiment en ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on vit des périodes de plus en plus solitaires où on nous apprend à être de plus en plus seul. Je suis pas le premier à le dire, mais les réseaux sociaux pour moi sont une espèce de mouroir plus qu'un tremplin social. Je pense que c'est tout le contraire. Et j'avais envie de faire un film qui parle de ça, de gens qui sont un peu abîmés, mais qui dans l'effort collectif, le sport amateur en l'occurrence, vont redynamiser un peu leur vie, remettre un petit coup d'électricité dans un électrogramme, un encéphalogramme un peu trop plat. Et voilà. Et donc c'est un film que j'ai décidé mélancolique et très joyeux à la fois. Mélancolique quand les personnages sont seuls et joyeux quand ils sont en groupe. Parce que du groupe naît l'euphorie et c'est quelque chose auquel je souscris absolument. Voilà.
Alors pour parler un peu de l'histoire, c'est un groupe d'hommes qui se retrouvent ensemble. Ils ont chacun leur petite écorchure dans la vie, et puis ils décident. Il y en a un principalement qui décide de joindre cette équipe de natation synchronisée masculine. Et puis ça ouvre tout plein de possibilités. Et puis il se rend compte que son problème est pas plus important, pas moins important que celui des autres. Avoir quelqu'un comme Benoît Poulvorde en tête d'affiche d'un film comme ça, c'est vrai qu'on s'attend à quelqu'un comme Benoît Poulvorde. On l'a eu nous dans le programme à une comédie, mais en fait il est tellement plus profond, Benoît.
Moi, je trouve que Benoît est un génie de la comédie. Quand j'entends de la comédie, c'est du jeu d'acteur. C'est quelqu'un qui a une densité, une profondeur, une poésie et une fêlure qui est exceptionnelle et rare. Et moi, j'ai la chance de le connaître très intimement, puisque j'ai fait mon premier film que j'avais co-réalisé, Narco, il y a une quinzaine d'années. Et je l'ai rencontré pour cette occasion-là. Et c'est quelqu'un qui me trouble par sa capacité à déjà d'être extrêmement généreux. Voilà, c'est quelqu'un qui donne beaucoup aux autres. Notamment, moi, j'ai pu voir sur Le Grand Bain, il va s'adresser à tous les techniciens du film, mais aussi aux figurants. Il va traverser la rue pour aller parler avec les gens. C'est quelqu'un qui aime la vie et qui, en même temps, a une fêlure interne bouleversante, qui le rend à la fois extrêmement drôle, mais en même temps, en un battement de cils, basculer dans le drame en 2 secondes. Et c'est voilà, il a une palette de jeux que je trouve rare, unique, et c'est un homme que j'aime vraiment profondément. Mais comme j'ai appris à aimer tous mes acteurs, j'ai eu la chance d'avoir des acteurs et des actrices qui m'ont aidé évidemment, mais parce qu'ils ont le mot est bien choisi, mais ils ont vraiment plongé avec moi dans cette histoire, ce qui était pas simple à la base, parce que sur le papier une bande de mecs qui font de la natation synchronisée, bon, c'est pas si évident, et ils ont surtout joué le jeu. Ils se sont entraînés comme des dingues, et c'est vrai que même un Benoît Poulvorde que je connais plus bordélique et plus un peu je m'en foutiste, là était très concerné. Il y avait quelque chose, je crois, qui nous parlait à tous, et moi j'ai profité de cette alchimie du groupe.
Et puis il y a bien sûr Guillaume Canet, c'est un grand pote à vous, j'ai l'impression. Guillaume Canet, vous avez vos carrières sont vraiment en parallèle. Il y a Philippe Catherine aussi. Ce casting, il a été compliqué à faire, ou pour vous ça a été dès le départ, il y avait déjà des noms sur le papier qui étaient là présents dès le début?
Non, en fait, j'ai écrit en m'obligeant à ne penser à personne, parce qu'en fait, par expérience, sur mon premier film, j'avais vraiment écrit pour des acteurs, et puis pour peu que les acteurs vous disent non, vous n'avez pas encore commencé à tourner, que vous êtes déjà amputé d'une sorte de rêve, de fantasme, et je me suis interdit ça. J'avais envie d'être, j'avais envie d'aller choisir le meilleur acteur pour le rôle. Donc j'ai écrit sans penser à qui que ce soit, et naturellement, en fait, une fois que je me suis posé, je me suis dit bon, qui, comment, j'ai été voir Mathieu Amalric en premier, que je connaissais parce qu'on avait fait un film de Jean-Paul Rapneau ensemble, et de Luc Besson aussi, mais il y a assez longtemps, sans se croiser, sans se connaître vraiment. Et je lui ai proposé mon film et il m'a dit oui, sans même lire le script. Ce qui augurait d'une série de bonnes nouvelles pour moi. Et je l'imaginais pas à la base, mais en fait, il m'a dit oui, il m'a dit écoute, je te connais, je sais le film que tu vas faire, tu m'as parlé de ton thème, j'y vais, je fonce. Bon, il s'avère qu'il a lu le scénario après et que ça lui a plu, heureusement. Mais j'ai eu beaucoup de chance avec ce film, notamment avec le casting. Je n'ai rencontré absolument aucune contrainte, aucun refus. Il y a eu quelque chose d'extrêmement gracieux. Le casting étant, puisqu'on rentre dans les choses un peu techniques, le casting étant un peu la chose la plus compliquée pour un réalisateur, parce qu'on rêve de ces personnages, on écrit avec enthousiasme, et l'épreuve du casting peut être très rédhibitoire, peut être très castratrice. C'est-à-dire que si vous rencontrez 2, 3, 4 acteurs qui vous disent non sur le même personnage, vous commencez à remettre en question votre écriture très fortement, quoi. Et ça met un coup dans l'aile, mais que ce soit pour vous, mais pour vos producteurs, pour tous les gens qui vous accompagnent. Et là, j'ai eu une chance inouïe, c'est qu'ils m'ont tous dit oui tout de suite. J'avais même des candidatures spontanées d'acteurs et d'actrices auxquelles j'avais pas pensé, qui m'appelaient pour me dire, il paraît que ton film est génial, j'aimerais le lire et tout. Et ça m'a évidemment énormément porté, quoi. Ça m'a donné une confiance inouïe. J'ai écrit assez longtemps ce film avec mes camarades Ahmed Hamidi et Julien Lambroschini. On a écrit pendant presque 3 ans. Donc quand les acteurs vous disent oui, c'est le premier feu vert, le plus symbolique et certainement le plus important, en fait. Au-delà de l'argent, je veux dire, c'est qu'après il vous faut de l'argent pour faire le film, mais la chose la plus importante, c'est d'avoir la validation des acteurs et des comédiennes. Moi, étant acteur moi-même, je sais l'importance que ça.
Et au bout, un super succès populaire. C'est un film qui a vraiment très bien marché en France, très bien apprécié par la critique, en tout cas ce que j'ai pu en lire jusqu'ici. Et c'est vrai qu'en France, on en parle de ce film, on a parlé de ce film. Pour vous, c'est une validation d'un travail peut-être bien fait?
En fait, pour revenir à cette succession de feux verts, il y en a eu un autre de feux verts qui a été assez inouï et complètement inattendu. Je vous avoue, c'est le Festival de Cannes qui a sélectionné le film de manière officielle, c'est-à-dire dans la grande salle. Ça a été une expérience absolument inouïe, parce que la comédie, on peut pas dire que ce soit forcément le style du festival. Et donc quand ils m'ont sélectionné, que on a eu l'accueil qu'on a eu. Puis le lendemain, cette déferlante de critiques ultra positive, oui, ça a été certainement la chose la plus joyeuse et la plus inédite que j'ai vécue dans toute ma carrière. Ouais, ça a été déjà, j'ai adoré faire ce film, évidemment. J'ai adoré l'écrire, j'ai adoré le faire, le réaliser, être entouré de tous ces gens tous les jours. Et puis le résultat a été bien au-delà de tous mes espoirs, vraiment, que ce soit critique ou public. J'ai constaté après le Festival de Cannes, parce que le Festival de Cannes c'est bien beau, mais après c'est la rencontre avec le public qui importe. Et j'ai fait une grande tournée province où je me suis baladé dans toute la France et je voyais l'engouement qu'il y avait autour du film et l'accueil que je pouvais avoir avant ou après, et surtout après le film. Il y avait des débats qui n'en finissaient pas, où je parlais, normalement on présente un film, on parle avec les gens une demi-heure, et puis là ça pouvait durer une heure et demie, 2 heures parfois. Et j'ai compris à ce moment-là que le film avait un écho très important en France, mais je pense qu'il a aussi eu... J'ai eu beaucoup de chance aussi sur l'agenda, en fait, de la sortie de mon film. Quand j'ai écrit le film, je ne pensais pas qu'il aurait un écho aussi particulier avec ce que vivaient les Français au moment où il est sorti. Et je pense que c'est un film qui a parlé aux gens, parce que justement, il n'est pas technologique. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a que des gens qui se parlent ensemble, qui sont des gens assez brisés. mais qui voilà, qui ont un sursaut commun. Et je crois que ça faisait écho avec une problématique actuelle et très française. Je suis pas sûr. J'ai pu voir que le film marchait dans certains pays, dans d'autres pas du tout, parce que cette thématique-là est pas. N'a pas forcément d'écho dans tous les autres pays.
Non, c'est un très beau film, honnêtement. Moi, je l'ai vu et c'était vraiment un super plaisir de le voir.
Merci d'écouter SBS French. Rendez-vous sur notre site sbs.com.au/french.
Comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue, et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout.
C'était bien évidemment la chanson « Évidemment » de France Gall, écrite par Michel Berger en ce samedi sur Radio SBS.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir d'avoir Denis Morandet, qui est le directeur de l'Alliance française de Sydney. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Denis, on commence avec les événements culturels chez vous en ce mois de juin. Il faut aussi rappeler aux auditeurs que c'est aussi les célébrations du 130e anniversaire de l'Alliance française de Sydney. Vous allez enchaîner le mercredi 11 juin dans le cadre de Philo Bistro, une soirée musicale d'après ce que je comprends.
Oui, nous aurons le plaisir d'accueillir Jane Rutter. Donc Olivier Vogetta aura le plaisir d'animer le Philo Bistro avec Jane Rutter, qui est une flûtiste de renommée internationale, et qui performera en live à l'occasion du Philo Bistro le mercredi 11 juin à partir de 18h. Mais le mois de juin est un mois assez animé, puisque la semaine suivante, le 18, nous aurons un atelier de la fresque du climat. Nous accueillons chaque année la fresque du climat pour un atelier à l'Alliance française. Ça fait partie en fait un petit peu de nos missions d'information autour de l'environnement et de la protection de l'environnement. Donc très heureux de les accueillir à nouveau le 18 juin.
Et est-ce que vous faites quelque chose pour la fête de la musique en ce mois de juin ?
Alors, pas pour la fête de la musique. Par contre, nous soutenons l'initiative de l'ambassade de France So Friends, So Good. Et le 28 juin, nous allons avoir un atelier gastronomique à l'auberge du Bout du Monde. Donc nous allons délocaliser un cours dans ce restaurant et les étudiants pourront non seulement déguster des plats délicieux, mais aussi en apprendre plus sur les techniques et traditions culinaires françaises dans le cadre de la campagne So Friends, So Good.
Je vois aussi que vous prévoyez un projet de Creative Writing Workshop.
Oui, alors ça, c'est une des initiatives que nous avons lancées. Nous avons été approchés par une autrice qui anime des ateliers d'écriture, et donc nous avons lancé dans notre newsletter une expression of interest pour sonder un petit peu nos membres et nos étudiants et voir s'il y aurait un public pour un atelier d'écriture, donc qui accompagnerait de jeunes écrivains ou de moins jeunes écrivains en herbe avec une professionnelle de l'écriture.
Et puis j'imagine que les rendez-vous réguliers ont repris après la fin de l'Alliance française French Film Festival, je pense au book club, les matinées de conversation et tout ça.
Oui, oui, donc le book club mensuel qui continue à plein régime. On se projette également, alors là on sera sur le mois de juillet, mais sur la Bastille des parties le 12 juillet, puisque nous allons délocaliser. Depuis 10-12 ans, nous étions à l'Argyle dans les Rocks. Et nous allons nous délocaliser à North Sydney, au Greenwood Hotel, pour une édition spéciale 130 ans qui promet d'être une grande fête à Sydney.
Et donc il faut réserver bien à l'avance.
Oui, tous les billets sont en vente. Vous pouvez passer soit par le site de l'Alliance française, soit par le site Bastille Day directement. Mais voilà, tout est prêt et chaque année nous accueillons entre 900 et 1000 personnes pour une version australienne du bal des pompiers. Donc c'est toujours un moment très sympa.
Et vous avez toujours les film nights à Sydney ?
Alors pas en ce moment, puisque donc nous avons eu le Alliance française French Film Festival qui a animé nos soirées cinéma. Pour le moment, nous travaillons sur d'autres projets, notamment un concours. Alors cette fois à destination des adolescents, un concours chantons en français qui traite de francophonie et où les adolescents peuvent en fait interpréter des chansons à partir d'une sélection d'une douzaine de titres et se verront ensuite invités à une cérémonie de remise de prix en septembre. Donc pour l'instant, on est plutôt orienté sur ces projets-là, mais ça reprendra certainement très rapidement dans le second semestre.
Il y a une limite d'âge ou une tranche d'âge à
signaler ? Oui, c'est pour les 12-18 ans qui résident en Nouvelle-Galles du Sud. Donc oui. Jean-Noël, si vous aviez prévu de participer, je suis désolé. Mais non, ça a beaucoup de succès. On l'avait lancé l'an dernier dans le cadre d'un projet francophonie avec le soutien de l'ambassade de France. Et le succès a été tel que les enseignants et les participants nous ont demandé si on pouvait le reconduire. Donc c'est quand même un feedback très très agréable et on l'a fait avec grand plaisir.
Un petit rappel de vos cours de 2025, je pense que c'est le deuxième trimestre en ce moment.
Alors, deuxième trimestre qui démarre, pour nous en fait l'année est divisée en six sessions. Oui. Donc on est en ce moment en pleine session 3, donc en milieu d'année. La prochaine session démarre le 7 juillet, les cours sont déjà en ligne. Et toujours une offre, que ce soit des cours standards, des cours de conversation, des cours qu'on appelle French for Travelers, pour les gens qui veulent voyager dans la francophonie. Donc tout est disponible en ligne et nous sommes prêts à accueillir tous les nouveaux étudiants.
Et peut-être un message, Denis, pour d'autres événements que j'ai peut-être ratés pour marquer le 130e anniversaire de l'Alliance française de Sydney ?
Alors en fait, on déroule au fur et à mesure de l'année le calendrier des événements. Donc là, la prochaine étape, c'est vraiment l'anniversaire des 130 ans ce vendredi. Et ensuite, nous allons avoir un petit break après le Bastille Day dont je parlais le samedi 12 juillet. Nous aurons un petit break en août pour revenir en septembre avec encore de nouveaux événements pour faire de cette année une année vraiment mémorable parce que 130 ans d'existence... ça n'est pas rien, donc nous voulons en profiter au maximum avec nos membres, nos étudiants et puis tous les amis de l'Alliance.
Merci à vous Denis et à très bientôt sur SBS en français.
Avec grand plaisir, bonne fin de journée, au revoir.
Votre communauté, vos conversations, SBS French.
Paris, 48 degrés nord, 2 degrés est. 5h50, vous quittez votre appartement. Il fait encore nuit. Les néons claquent sur vos rétines. Un taxi. La Seine. La pluie. Porte de Vincennes, puis l'autoroute, direction Roissy. Terminal 2, vous enregistrez votre valise. Elle disparaît sur la dentelle de caoutchouc et se mêle aux autres bagages dont la destination vous est inconnue. Une série d'escalators vous escorte jusqu'aux douanes. Vous ne ralentissez pas devant les boutiques hors taxes, mais au coin presse, vous piochez un hebdomadaire. Le courrier international titre « Voyage dans l'Irlande du Brexit ». 8h10. Vous embarquez pour le vol AF38. 37 degrés sud, 144 degrés est. Melbourne.
Paris, Melbourne. Une chanson qui peut parler à pas mal d'entre nous.
Vous pouvez nous écouter quand vous le souhaitez. Téléchargez émissions, interviews et actualités à la demande. Visitez la page sbs.com.au/french.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour notre programme en français en ce samedi. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que toutes nos émissions, tous nos podcasts sont disponibles en ligne sur notre site internet sbs.com.au/french. Et n'oubliez pas, il y a une centaine de films disponibles pour vous gratuitement sur la plateforme d'SBS en demande à n'importe quel moment. Et le tout, bien entendu, gratuitement. Prochain rendez-vous avec notre programme, c'est demain dimanche et le reste de la semaine, mardi, jeudi et bien entendu samedi également à 13h. Bon après-midi et bon appétit si vous êtes toujours à table. À demain.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.